Bonjour, aujourd'hui le pharaon le plus étrange de l'histoire de l'Égypte, l'inventeur de la première religion monothéiste de l'histoire, Akhenaton. Aton, tu te lèves magnifique à l'horizon. Tes rayons enveloppent toute la terre pour ton fils aimé, Akhenaton. Grand hymne au soleil, 14e siècle avant Jésus-Christ. ans d'histoire. Le 17 novembre 1714, sur la rive droite du Nil, quelque part à 200 km au sud du Caire, un jésuite, le père Sicard, trouvait par hasard une pierre étrange sur laquelle était gravé un disque solaire dont chacun des rayons se terminait par une main. Sans le savoir, le père Sicard venait de découvrir une cité disparue depuis plus de 3000 ans, la capitale d'un des pharaons les plus singuliers de l'Antiquité, Akhenaton. Monté sur le trône d'Égypte quand elle était à l'apogée de sa puissance, il en avait bouleversé la religion polythéiste en établissant pour la première fois de l'histoire le culte d'un dieu unique, Aton, le disque solaire, et en prenant le nom d'Akhenaton, celui qui est agréable à Aton.
Les prêtres et les courtisans le craignent. Ils disent que c'est un hérétique qui adore secrètement un nouveau dieu, Aton, le disque solaire. Il affirme que les dieux égyptiens sont enfoncés dans des tanières et les hommes dans la peur, qu'ils sont cruels. Il a tourné son visage vers le soleil qui se lève chaque jour, redonnant vie et lumière à toutes choses. On dit, maîtresse, qu'il délaisse les femmes et qu'il leur préfère l'étude. On l'accuse d'être un poète, un mystique, un fou.
Regarde, il se prosterne devant la face du soleil.
Ton lever est magnifique à l'horizon lointain du ciel, ô éternel Aton, origine de toute vie.
Marc Gabold, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes égyptologue, maître de conférences à l'université de Montpellier III et auteur d'un livre sur Akhenaton qui vient de sortir chez Gallimard Découverte. Akhenaton qui a régné à peine moins de 20 ans, je crois, sur les 3000 ans qu'a duré l'histoire de l'Égypte des pharaons. Mais alors, avec Ramsès II, avec Toutankhamon, avec Cléopâtre, c'est un des pharaons les plus connus alors que tous ses successeurs ont tout fait pour effacer sa mémoire.
Oui, c'est un pharaon connu et les raisons pour lesquelles il est connu sont objectives. Hein. D'abord, il est l'inventeur du premier monothéisme historique. En second lieu, il a pour épouse probablement la plus belle femme de l'Antiquité, la belle Néfertiti. Et en troisième lieu, c'est à son époque, en tout cas c'est sous son successeur, que l'on trouve le plus merveilleux trésor archéologique de l'histoire égyptienne avec le trésor de Toutankhamon. Donc on a là tous les ingrédients d'une excellente histoire, d'un excellent drame, l'amour, le monothéisme, Dieu, la mort et l'or.
Et à un moment, vous le rappelez au tout début de votre livre d'ailleurs, Marc Gabold, un moment où l'Égypte est à l'apogée en fait de sa puissance. On est à l'époque, parce que cette très longue histoire de l'Égypte de l'Antiquité qui a duré plus de 3000 ans, elle se divise en plusieurs périodes et on est à l'époque de ce qu'on appelait le Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 1570 avant Jésus-Christ et 1070. Et là, elle est vraiment la plus grande puissance de l'Antiquité.
C'est effectivement la plus grande puissance de l'Antiquité. L'ère d'influence de l'Égypte va du Soudan à la quatrième cataracte et au nord, la zone d'influence va dans la région de Damas. Hein. Le roi Toutmosis III avait poussé des raids jusqu'à l'Euphrate et finalement les successeurs de Toutmosis III, Amenhotep II, Toutmosis IV et le grand Amenhotep III vont gérer cet immense domaine colonial de manière très sage et en retirer des subsides qui vont enrichir considérablement la cour égyptienne.
Et avec deux capitales, vous le rappelez aussi, il y a une capitale administrative qui est Memphis, tout au delta du Nil, et puis tout à fait au sud, il y a Thèbes, hein, où résidaient d'ailleurs les plus grands pharaons de cette dynastie à laquelle appartenait Akhenaton, c'est la 18e dynastie. Et alors justement, capitale religieuse, mais d'une religion polythéiste à l'époque où Akhenaton monte sur le trône.
Voilà, lorsque Akhenaton monte sur le trône, vers 1356 avant Jésus-Christ, c'est le polythéisme qui est la religion officielle. Avec deux grands dieux locaux, le dieu Amon à Karnak, par exemple, le dieu Ptah à Memphis, le dieu Atum à Héliopolis. Alors tous ces dieux sont plus ou moins créateurs localement, considérés comme uniques, mais uniques ça veut dire en fait qu'ils n'ont pas leur équivalent ailleurs en Égypte. Ils sont tous en quelque sorte uniques dans leur pays. Et finalement, ce système s'accommode assez bien, ces systèmes sont complémentaires, et les Égyptiens ont trouvé des systèmes d'échange théologique qui vont permettre à ce polythéisme de se maintenir. Mais on arrive à un moment où apparaît ce qu'on appelle une phénoménologie, on ne prend en considération que les phénomènes finalement accessibles au sens, et le polythéisme va être en crise juste avant l'arrivée d'Amenhotep IV sur le pouvoir.
Alors Amenhotep IV, c'est le fils d'Amenhotep III, on dit aussi Amenophis III, hein, je ne sais pas.
Voilà, maintenant on préfère Amenhotep, qui est plus conforme effectivement à l'étymologie.
Alors Amenhotep III, le père d'Amenhotep IV, du futur Toutankhamon, il a régné 38 ans. C'est le premier pharaon, dites-vous, à être divinisé de son vivant.
Oui, dans un temple qui se trouve en Nubie, il honore sa propre forme en tant que dieu lune, un dieu Amenhotep III lunaire en quelque sorte. Et ceci annonce un petit peu l'espèce de mélange entre le roi et le dieu qui va se manifester, se développer sous Amenhotep IV Akhenaton.
Alors Amenhotep III, donc son père, a régné 38 ans jusqu'à sa mort en 1356 avant Jésus-Christ, l'année où son fils donc montait sur le trône d'Égypte sous le nom d'Amenhotep ou Amenophis IV.
Osiris, dieu de la mort et des ténèbres, accueille le pharaon d'Égypte, prends ce taureau sacré et donne à notre roi la vie éternelle. Inclinez-vous devant votre pharaon. Maître de la basse et de la haute Égypte, Amenophis IV.
Silence, le pharaon paraît, face contre terre devant le dieu vivant.
Et c'était donc l'avènement d'Amenhotep, qu'on appelle aussi donc Amenophis IV, le futur Akhenaton. Je crois qu'il a à peine 10 ans, Marc Gabol, quand il monte sur le trône de la haute et de la basse Égypte.
Oui, on a quelques portraits du début du règne qui montrent que c'est un jeune enfant, grassouillet, hein, bien en chair. Et on a très peu de documents de l'époque où il était prince. En fait, on n'a que deux mentions du jeune prince, qui, étant donné la quantité de documentation que l'on a, est étrange, ce qui veut dire qu'il a été en fait prince très peu de temps. Et à mon avis, il est monté sur le trône à environ 10 ans.
On suppose quand même que sa mère, on a oublié de parler d'elle, qui était la femme, ce qu'on disait la grande épouse royale, c'est-à-dire la principale des femmes du pharaon, du père d'Akhenaton, qui s'appelait Tilly, qui a dû être une espèce de régente à ce moment-là, non ?
Alors c'est une femme d'autorité, c'est une roturière, elle est originaire d'un petit bourg de Haute-Égypte, et effectivement elle va prendre énormément d'importance à la fin du règne d'Amenhotep III, et elle va vraisemblablement essayer de jouer un rôle de régente au tout début du règne d'Amenhotep IV, qui va assez rapidement s'en affranchir.
Alors qui va s'en affranchir peut-être sous l'influence de sa femme, 4 ans après, à peu près 4 ans, hein, parce que à ces périodes-là, on ne sait pas très bien au jour près ce qui s'est passé, mais où il épouse, alors la femme qui a fait aussi sa célébrité, vous le disiez au début de l'émission, Marc Gabold, c'est Néfertiti, qui devient la grande épouse royale du futur Akhenaton, de Amenhotep IV. Néfertiti, je crois, ça veut dire la belle venue d'ailleurs, je crois. Alors, on sait qu'elle était belle, hein, d'abord. Il y a un extraordinaire buste de Néfertiti, je crois, qui est au musée de Berlin, qui a été découvert d'ailleurs par un Allemand au début du XXe siècle.
Oui, c'est probablement le plus beau portrait que l'on ait d'elle, qui date vraisemblablement du début du règne, avec des traits extrêmement purs, une couleur de chair excessivement pâle, Et on avait supposé pendant longtemps, en raison de son nom qui veut dire « la belle est venue » tout simplement, qu'elle était originaire du Mitanni, du royaume hittite. On a même proposé Chypre récemment. Sa nourrice est une bonne égyptienne de la région du 9e nome de Haute-Égypte, et elle a une sœur qui porte un nom bien égyptien, et son nom à elle est bien égyptien. Je suppose que c'est plutôt une jeune noble de la région du 9e nome de Haute-Égypte qui a pu rencontrer le jeune prince Amenhotep, qui a probablement été élevé aussi dans la même région. On a une sorte de clan des gens du 9e nome qui va peu à peu prendre de la
portance. Les nomes, c'était les régions, c'est
oui,
ça.
Oui, voilà, c'est une sorte de département, et qui vont finir d'ailleurs par avoir un pharaon sur le trône.
Alors, elle est associée, je crois, à ce nouveau culte que met en place, il s'appelle encore Amenhotep IV, donc le futur Akhenaton, qui est donc le culte d'Aton. Alors pourquoi ? Parce que ça, c'est une révolution dans l'histoire en général, dans l'histoire de l'Égypte en particulier. Pourquoi ce passage assez brutal, assez rapide, au moment de la quatrième année à peu près de son règne, au culte d'un dieu unique ? Et pourquoi ce dieu unique ? Pourquoi Aton, qui veut dire, je crois, le disque solaire ?
Voilà. C'est une religion extrêmement pragmatique, en fait. Amenhotep IV avait une prédilection solaire jusqu'à l'an 3-4 de son règne, qui s'inscrit dans un mouvement plus général dont je vous ai parlé, qui est la phénoménologie, où l'on ne prend en compte que les phénomènes qui sont accessibles au sens. Tout ce qui est assez accessible par un effort intellectuel, comme la mythologie, ou par un effort spirituel, comme la foi, est en fait marginalisé. Et c'est une explication, je dirais, presque scientifique du monde. On se borne à constater les phénomènes. Et le phénomène le plus impressionnant que l'on puisse constater, eh bien, c'est le disque solaire qui dispense à la fois lumière, chaleur, rayonnement et indirectement amour, bonté, qui fait croître les plantes, etc. Donc en fait, la religion d'Amenhotep IV, c'est une forme radicale de ce courant phénoménologique qui naît pendant la 18e dynastie, qui va d'ailleurs se poursuivre après la mort d'Akhenaton. Mais lui va en faire un système absolument radical qui va exclure les autres divinités.
Mais en prenant des risques considérables, il faut rappeler, vous le dites dans votre livre, Marc Gabold, il faut rappeler quand même qu'il y avait un très puissant clergé du dieu de Thèbes, important à l'époque, qui était Amon. Et évidemment, ils se sont mis à hurler quand ils ont vu apparaître ce nouveau dieu, et surtout quand ils ont vu qu'on cherchait à exclure les autres dieux de la religion égyptienne.
Oui, alors il y a eu un conflit. Amenhotep IV en parle dans ses stèles frontières de Tell el-Amarna. Il y a eu un conflit visiblement avec le clergé d'Amon. Amon signifie le caché. Or, entre le caché et la plus éclatante manifestation du soleil, il y a visiblement une contradiction. Donc il y a eu un conflit qui est essentiellement d'ordre théologique. Mais il ne faut pas oublier que le roi est quand même celui qui nomme une partie du clergé, donc il a la haute main sur le clergé. Alors c'est un conflit effectivement, mais dont le roi va sortir en partie vainqueur. Il va même parvenir à faire effacer le nom et les images d'Amon dans les recoins les plus saints du temple de Karnak. C'est-à-dire que son pouvoir est en quelque sorte supérieur à celui des prêtres. Alors il est vrai qu'il va échouer en quelque sorte à imposer son culte à Thèbes, dans la mesure où il va devoir s'exiler et fonder une nouvelle capitale en Moyenne-Égypte.
Il va quand même essayer de le faire, d'abord en créant, je crois, un lieu de culte à Aton, à Thèbes, justement, avec notamment un obélisque qui a cette caractéristique, on en connaît beaucoup, on connaît celui de la Concorde, mais qui a cette caractéristique, celui-là, d'être le plus grand qui ait jamais été construit dans l'histoire de l'Égypte, et qui était en plus un obélisque unique, alors qu'à chaque fois qu'on construisait un obélisque dans l'Égypte de l'Antiquité, on en construisait deux.
C'est effectivement une spécificité de cet obélisque qui avait été envisagé par Thoutmôsis III, finalement élevé par Thoutmôsis IV, d'être unique. Et c'était un symbole solaire voulu de ce fait unique dès l'origine, probablement une réplique d'un obélisque qui se trouvait à Héliopolis, et donc qui était en quelque sorte une antenne, un moyen de joindre la terre et le ciel.
C'est ça la fonction de l'obélisque.
Ah, en quelque sorte, ouais. Hein, c'est un capteur solaire particulier, donc de faire ce lien entre le ciel et la terre.
Obélisque étonnant d'ailleurs, parce que je crois qu'actuellement on le trouve tout simplement à Rome devant le
palais. Ah oui, il a visiblement un destin monothéiste, puisqu'il est actuellement devant l'église, la paroisse du pape, qui est Saint-Jean de Latran à Rome.
Alors il était dédié, je suppose, à Aton, mais vous le disiez, Marc Gabold, le culte d'Aton échoue un peu à Thèbes, et là, que fait ? Alors, il prend le nom d'abord d'Akhenaton, celui qui est agréable à Aton, hein, il finit son nom précédent, qui était donc de Amenhotep IV, ça devient Akhenaton, et surtout, il construit une ville, justement, une nouvelle capitale, au nord, je crois que c'est à peu près à 250 km au nord de Thèbes, une ville qui s'appellera Akhetaton, hein, justement, qui s'appelle aujourd'hui Tel El Amarna, hein, c'est ça. Et une ville nouvelle, hein, comme on en construit aujourd'hui.
Voilà, il veut une nouvelle zone dédiée entièrement au disque Aton. Alors, pour cela, il décide un territoire qui fait à peu près 250 hectares. La ville va être construite sur la rive est. Et en fait, c'est une ville palatiale. C'est-à-dire qu'il y a en gros une avenue royale qui dessert des temples et des palais. Et qui est entouré par un cirque de montagne où sont sculptées des stèles frontières, où le roi nous annonce son programme architectural. C'est très pratique parce qu'on a la ville et on a les intentions d'Akhenaton. Donc on peut comparer pour une fois les textes et les vestiges archéologiques. Et on s'aperçoit qu'il a pratiquement construit tout ce qu'il avait envisagé de construire. C'est en fait une ville palatiale, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme Versailles. C'est-à-dire un palais, ce qui lui permet de fonctionner. Ce n'est pas vraiment une capitale comme l'était Memphis ou comme l'était Thèbes.
Alors, vous évoquez une ville architecturale, mais aussi avec des éléments, des statues, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire avant Akhenaton, ni même après. C'est ce qu'on appelle justement l'art amarnien, hein, ou l'art d'Akhenaton, avec, alors justement, il y en a un exemple sur la couverture de votre livre, c'est un buste de Akhenaton, mais avec des visages absolument inouïs, des visages allongés, des hanches énormes, des épaules très étroites, des personnages un peu androgynes. C'est tout à fait particulier, c'est reconnaissable immédiatement, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'Égypte, cet art amarnien.
Oui, alors il correspond en fait à la conjonction de trois phénomènes. D'abord, le passage de la puberté qui a modifié un petit peu la physionomie d'Akhenaton. Au moment de la puberté, les adolescents poussent d'un seul coup, hein, et puis prennent des caractères sexuels secondaires très marqués, des lèvres pulpeuses, etc. Alors, ceci apparaît dans cet art. Il y a également probablement l'influence de la maladie de Baraquer-Simons, qui est une maladie qui voit la partie supérieure du corps devenir absolument squelettique. Les graisses fondent, sont digérées par le corps, et en revanche, elles ont tendance à croître ou à se maintenir à la partie inférieure.
C'est une maladie qu'aurait eu Akhenaton.
Oui, probablement. Et enfin, le retour d'un art baroque qui accentue toutes ces formes, un art baroque comme on en a au XVIe siècle ou dans la Grèce hellénistique, donc qui donne beaucoup de volume, beaucoup de mouvement à ces formes, les exagère jusqu'à la caricature. Et la conjonction de ces trois phénomènes donne cet art tout à fait étonnant, où l'on a des visages qui ressemblent à ceux du Gréco, ou des formations de Modigliani, si vous voulez, mais là, c'est un courant qui ne touche pas simplement un artiste, mais tous les artistes qui travaillent pour le roi.
Et avec des scènes comme on n'en voyait nulle part non plus dans l'art égyptien, ni avant ni après Akhenaton, des scènes très familières avec des couples qui semblent être amoureux les uns des autres. C'est le cas d'ailleurs de Akhenaton et Néfertiti.
Oui, alors on a des scènes tout à fait surprenantes d'intimité. On voit le roi avec sa famille, embrassant ses filles, son épouse, entraînant même Néfertiti vers le lit nuptial. Pourquoi ? Eh bien parce que la piété populaire se dirige désormais vers la personne du roi. Le roi honore son dieu soleil, mais le peuple honore le roi. Et tous les faits et gestes de la famille royale sont une sorte de nouvelle liturgie. Un petit peu comme l'étiquette l'était à Versailles. Donc, on va pouvoir représenter le roi dans des attitudes absolument inédites, ce qui rend cet art extrêmement attachant, extrêmement vivant, extrêmement pittoresque.
Mais témoin d'un culte auquel Akhenaton consacrait, disait-on, beaucoup plus de temps qu'aux autres affaires de l'État.
Le nouveau temple où le pharaon adore son propre dieu. Regarde. J'ai vu les souffrances que son dieu a fait descendre sur l'Égypte. Ce sont les prêtres, pas le pharaon, qui sont la cause de nos souffrances. Ils ont rendu le pharaon responsable des malheurs de l'Égypte et fait croire au peuple que les anciens dieux montrent ainsi leur colère. Je te demande pardon, Akhenaton, d'interrompre tes prières. Mais c'est très urgent.
Le commandant en chef ne me doit pas d'explication.
Je t'amène quelqu'un dont tu te souviens sûrement. Sinoué, le médecin. Sinoué vient de rentrer du royaume des Hittites. Il prépare la guerre contre nous. Ne vois-tu pas qu'une guerre unirait notre pays, Akhenaton, et que toutes les factions se réconcilieraient pour lutter contre l'ennemi commun?
Le règne de Akhenaton Margabol n'a pas été seulement marqué par le culte d'un dieu unique, il y avait aussi des périls extérieurs, vous les mentionnez, notamment les Hittites qui deviennent dangereux à l'époque du règne d'Akhenaton.
Oui, les Hittites ont à cette époque-là un très grand roi qui s'appelle Shupildulyuma et qui essaye d'agrandir son domaine de vassalage vers la Syrie, qui était en grande partie une possession égyptienne, en manœuvrant des petits états tampons, les Amorites, la ville de Kadesh, qui est toujours un point d'ancrage important pour les Égyptiens. Et il va y avoir une lutte entre ces grandes puissances qui vont aboutir d'ailleurs au grand conflit sous Ramsès II et à la bataille de Kadesh bien plus tard. Et ces Hittites vont même interférer à la toute fin du règne d'Akhenaton dans les affaires politiques intérieures de l'Égypte.
La fin de son règne est assez pathétique. D'abord, il y a pratiquement la mort en même temps de plusieurs membres de la famille royale qui meurent, et y compris sa femme d'ailleurs qui va mourir avant lui.
Oui, Néfertiti meurt vraisemblablement quelques mois avant Akhenaton. On a un fragment de figurine funéraire qui nous atteste qu'elle est bien morte avant Akhenaton et qu'elle ne lui a pas succédé comme on l'a cru parfois. Et ces morts rapprochées pourraient être mises en relation avec une gigantesque épidémie de peste dont on a pour l'instant retrouvé quelques traces, semble-t-il, dans les sédiments de Tell el-Amarna, et qui pourrait avoir précipité effectivement le décès d'un certain nombre, la mère du roi.
Y compris parce que Akhenaton meurt, je crois, à l'âge de 27 ans, autour de 1334 avant notre ère, je crois. On a même dit qu'il avait peut-être été assassiné.
Je crois pas. Je crois plutôt qu'il a été victime de cette peste. Il n'y a aucun témoignage sur son éventuel assassinat, pas plus que pour celui de Toutankhamon d'ailleurs.
Parce que la succession est assez confuse, on ne sait plus très bien qui lui succède. Alors à un moment donné, il y a sa fille Meritaton qui commence, je crois, à effacer d'ailleurs le culte d'Aton, commence à marteler déjà tous les édifices qui portent son nom. Et même d'ailleurs, après Meritaton, qui est la fille de Akhenaton, il y aura Toutankhamon, fils également d'Akhenaton, Toutankhamon qui s'appelait Toutankhaton, et on y reprend le nom d'Amon. On a l'impression qu'on veut absolument effacer tout souvenir de Akhenaton et de son culte de dieu unique.
La fin du règne est effectivement absolument dramatique, puisque d'un côté on a une défaite hittite contre les Hittites en Syrie, qui oblige les Égyptiens à faire appel justement à un prince hittite, qui est vraisemblablement d'ailleurs un roi mystérieux qui se nomme Smenkhkaré. Ensuite, vous avez une seconde femme pharaon, à l'instar d'Hatshepsut, Meritaton, et la peste. Et donc toutes ces raisons font qu'on s'est dit probablement à l'époque, la religion d'Aton, c'était peut-être pas la très bonne idée du moment. Et on est retourné au polythéisme traditionnel.
Et pourtant vous dites que la religion d'Aton a laissé des traces. On dit même d'ailleurs qu'elle serait à l'origine de toutes les autres religions monothéistes, comme le judaïsme qui apparaîtra plus tard. C'est ce que laisse entendre d'ailleurs ce dernier extrait de Peplum de Michael Curtis, l'Égyptien, dans lequel au moment de mourir, Akhenaton annonçait la naissance à venir des religions monothéistes.
Tout m'est très clair maintenant. Je croyais que Dieu était le soleil, et j'avais fait son image. Mais Dieu est plus, bien plus. Le soleil n'est que le symbole de sa chaleur,
de sa puissance créative. Ce n'est pas une idole, une chose tangible, mais le créateur de toutes choses.
Ma mort est sans importance. Devant la splendeur des choses à venir, je ne fus qu'une ombre, la voix de l'être suprême. Mais il y aura d'autres voix, plus claires que la mienne.
Le pauvre, il est resté fou jusqu'au bout. Demain, je ferai un sacrifice au Dieu pour lui.
Étonnant cet extrait de L'Égyptien de Michael Curtis, un film du XXe siècle, évidemment un péplum. On a l'impression qu'il a annoncé, c'est ce que semble indiquer ce film, et ce que d'ailleurs, ce qu'on voit un peu partout, il annonce les religions monothéistes qui vont venir.
Oui, alors c'est complexe. En fait, le monothéisme d'Akhenaton est très différent du monothéisme juif qui va être le premier monothéisme historique après Akhenaton. Le dieu d'Akhenaton, par exemple, n'a pas du tout de dimension éthique. Il ne punit ni ne châtie. C'est vraiment le disque solaire, la lumière, donc un phénomène pragmatique. En revanche, ce qui est tout à fait possible, et quand on lit le grand hymne à Aton, on a des extraits qui sont totalement isolés dans la littérature égyptienne. Et quand on lit le psaume 104 de la Bible, on a aussi des extraits qui sont totalement isolés dans la littérature hébraïque. Or, ces extraits disent à peu près la même chose, à la fois dans le psaume 104 et dans l'hymne à Aton. Et on ne peut écarter la possibilité d'un lien entre les deux.
Parce que la postérité va même plus loin. Vous dites, Marc Gabold, que les marxistes considèrent qu'au fond, il est à l'origine de la première révolution sociale de l'histoire, et même que Freud s'en est inspiré d'Akhenaton.
Alors, la figure d'Akhenaton a fasciné Freud. Bon, les marxistes, ils ont cru à une révolution sociale qui, en fait, n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de troubles sociaux à l'époque d'Akhenaton. En revanche, Freud s'y est intéressé car il a retourné le mythe de Moïse en montant que Moïse était un anti-héros et il a essayé de montrer que l'origine de la foi de Moïse était Akhenaton. En fait, il a raison et tort à la fois. Historiquement, c'est impossible, mais en revanche, comme je vous l'ai dit, il est très possible que l'histoire cryptée d'Akhenaton ait pu être transmise jusqu'aux Hébreux installés en Palestine.
Akhenaton, du mystère à la lumière, c'est donc le titre du livre de mon invité d'aujourd'hui, Marc Gabold, publié aux éditions Gallimard dans la collection Découverte. À lire aussi Akhenaton, le dieu maudit, de Gilbert Sinoué, également paru chez Gallimard. Mais dans la collection Folio, vous avez pu entendre des extraits des films L'Égyptien de Michael Curtis, disponible en VHS chez Fox Video, et de Nefertiti de Guy Gilles, disponible en DVD chez UFG. A voir également L'Égypte, la terre des pharaons, une collection de 10 DVD édité par Nakara Prod. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Jean-Philippe Jeanne et Benjamin Lagatinet. Documentation, Claire Tesser, Camille Poux-Jalaguier et Mathieu Ménossi. Une réalisation de Philippe Rouy.